Nous avons jusqu'ici montré le but, l'idéal, on peut dire, la beauté de l'amour et de la communion à laquelle le Christ nous appelle. La dernière fois, nous avions parlé de la communion spirituelle. Elle n'est pas réservée au mariage, mais d'une manière particulière, l'homme et la femme, dans le mariage, sont appelés à cheminer vers cette communion spirituelle. Et maintenant, nous voudrions rentrer plus dans le concret des choses, c'est-à-dire la question du chemin par lequel nous pouvons parvenir à cette communion spirituelle, que nous soyons donc mariés ou non. Nous sommes tous appelés à vivre ce que l'on appelle aussi la communion des saints, la communion des enfants de Dieu, entre eux, en Dieu. Et pour cela, il nous a semblé important, pendant cette journée, qui est un peu une retraite, de mettre en évidence cette réalité cachée, mais centrale, qu'est le cœur. Le cœur est une réalité insaisissable par notre raison, dit le catéchisme, et donc ne cherchons pas à la saisir nous-mêmes, mais laissons l'Esprit-Saint nous éclairer pour nous donner la grâce de prendre conscience de ce lieu secret qu'est notre cœur. Comment le cœur nous est-il révélé dans la Bible? Comment Dieu lui-même parle du cœur de l'homme? La première chose, c'est cette idée d'ouverture et de fermeture. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Le cœur, c'est ce par quoi je peux m'ouvrir à Dieu qui s'offre, qui se révèle. Le cœur est le lieu d'une sensibilité, d'une réceptivité à l'amour, qui fait que le Père Thomas Philippe, donc, a été le fondateur spirituel de l'Arche, aimait parler au sujet du cœur d'une conscience d'amour. Par le cœur, je peux me laisser toucher par Dieu. Je peux me rendre vulnérable à son amour. C'est une capacité, donc, d'accueillir, de recevoir, qui est au-delà de notre sensibilité affective, de notre sensibilité psychique, et qui se révèle d'une manière particulière quand nous sommes en contact avec des personnes handicapées. Ici, nous pourrions donner des exemples.
À ce sujet-là, on a vécu une expérience il n'y a pas longtemps. Nous avons notre fille aînée a une enfant polyhandicapée et elle a vécu une période cette année de révolte intérieure ou peut-être un peu de fermeture du cœur. Et après tout un chemin, elle était rentrée dans une grande tristesse. La maman, pas l'enfant handicapé, parce qu'elle... Elle est sourde aveugle, elle n'a pas de cortex cérébral, donc aucune communication évidente, parce qu'il y en a une communication, mais pas dans l'évidence. Et donc notre fille a fait un chemin, un petit peu un chemin de révolte pendant quelques mois, et elle a retrouvé récemment le contact avec son cœur, Et du coup, très émerveillée de... ça a sans doute été un chemin de purification, ce passage-là. Et très émerveillée de ce qu'elle retrouvait dans son cœur, elle dit un soir la prière à ses fils qui ont 11 ans et 5 ans. Eh bien, les enfants, on va essayer de faire une expérience ce soir. Et elle leur dit, elle leur explique, elle leur dit, vous fermez les yeux, et puis derrière votre sternum, là, au centre de vous, vous avez un lieu immense, très grand, infini, puisqu'il peut contenir Dieu. Et puis elle continue à expliquer comme ça, et puis Pierre, qui a 11 ans, lui dit, maman, tais-toi, je suis dedans. Alors, impressionnée, elle se tait, puis Jean ne bougeait pas non plus, ils étaient tous les deux très, très concentrés, et ce qui n'est pas habituel, hein, parce que c'est plutôt des agités au moment de la prière. Et donc, elle était très touchée de voir l'intériorité de ces deux garçons, mais au bout de quelque temps, elle dit, il faut quand même qu'ils aillent se coucher. Donc, elle reprend la parole, et Pierre lui dit, mais tais-toi, maman, tu nous déranges là. Et Sophie lui dit au bout d'un moment, alors elle se retait, elle se dit bon. Et puis au bout d'un moment, elle leur dit, mais les garçons, il faut aller se coucher quand même. Et Pierre a regardé Sophie avec un air triste en lui disant, mais on était si bien, pourquoi tu ne veux pas, pourquoi tu nous déranges quoi. Alors elle leur a dit, bon ben écoutez, de toute façon, il faut monter se coucher, donc moi je vous propose une expérience. Vous allez monter dans votre lit, puis vous recommencez la même expérience dans votre lit. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'ils sont montés tous les deux 4 à 4 et qu'on ne les a plus entendus. Et d'habitude, pour les monter au lit, il faut le dire 25 fois. Donc, on a vraiment... Elle a été très touchée, Sophie. Elle me disait, je crois que le fait que moi, je venais de redécouvrir ce lieu en moi m'a permis de faire cette expérience aux garçons. Bon, c'est pas magique, hein, mais c'était vraiment. On a été très bouleversés par ça.
Oui, ça me rappelle une expression de Benoît XVI, le cœur parle au cœur. Et c'est l'expérience qui nous le montre simplement. Et donc, quand quelqu'un dans une famille il parle avec le cœur, ça éveille le cœur des autres. Et même si on parvient à prier avec le cœur, cette prière. Se diffuse et permet donc aux autres aussi de prier avec leur cœur. Donc je dis, le cœur, c'est une capacité de se laisser toucher par les réalités invisibles qui sont au-delà de la sensibilité affective et au-delà de l'intellect. Donc c'est le cœur quelque part qui écoute Dieu, c'est le cœur qui reçoit, c'est le cœur, au comprenant lié, où se forme la foi. La vraie foi, c'est la foi du cœur comme ouverture, précisément, à la révélation de Dieu. Et en même temps, le cœur, dans l'Écriture, apparaît comme le lieu des desseins. Le lieu de l'intention profonde. C'est-à-dire, le cœur reçoit et en même temps, il se tourne vers. Le cœur, c'est le lieu de notre orientation profonde de vie. Personne, la dernière fois, dans le groupe de partage, me disait qu'à propos du mariage, il y avait toutes sortes de raisons pour lesquelles on pouvait se marier. Il m'a dit, il y a des personnes qui se marient par dépit. Il y a des personnes qui se marient pour une raison tout à fait cachée, sans que cela apparaisse. Cette raison, elle est cachée dans leur cœur. C'est la raison profonde. Le cœur, ce cœur qui, quelquefois même caché à nous-mêmes, cache donc une orientation, une intention, non seulement aux autres, mais à nous-mêmes aussi, au sens où nous pouvons nous aveugler. Le cœur est vraiment un lieu caché, secret. Évidemment, Dieu parle à notre cœur pour que nous nous tournions vers lui. Donc nous nous ouvrons et nous nous tournons vers. Le cœur qui se tourne vers Dieu, comme vers sa fin ultime, comme vers son vrai bien. Ce cœur qui se tourne vers Dieu, c'est le cœur qui espère. Le cœur est le lieu où se forme l'espérance. La foi, l'ouverture, l'espérance qui est cet élan vert, profond. Que dire encore du cœur si ce n'est qu'il est précisément ce qu'il y a de plus profond en nous, le catéchisme dit le fond de l'être. Jésus dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, la chambre de ton cœur. Parce que Dieu est là dans le secret, il te voit dans le secret de ton cœur. Le cœur, c'est notre intériorité, mais une intériorité dynamique, donc capable d'ouverture, de fermeture, de se tourner vers, de se détourner. C'est par notre intériorité, parce qu'il y a de plus intime en nous-mêmes, que nous pouvons en même temps, vous le comprenez, nous ouvrir aux autres. Nous avons des yeux qui se ferment et qui s'ouvrent. Nous avons une oreille qui peut entendre ou éventuellement faire se rendre un peu sourde. Mais nous avons surtout les yeux du cœur et l'oreille du cœur par lequel nous nous ouvrons à Dieu et aux autres. Cardinal Ratzinger, quand il a célébré les funérailles de Jean-Paul II, a voulu souligner surtout une chose, c'est que Jean-Paul II avait gardé un cœur ouvert face à tout homme. Le cœur, c'est un lieu que l'on découvre et dans lequel on peut s'installer progressivement pour vivre toute chose et toute relation avec son cœur. Par rapport à cette découverte de notre cœur et le fait de suivre un chemin d'intériorité qui va permettre, vous le comprenez bien, la communion spirituelle, je pense que c'est important ici de laisser place au témoignage parce que on ne peut pas penser qu'il y ait une espèce à part de gens qui aient un cœur profond et une autre espèce de personnes qui restent à la superficie d'eux-mêmes, mais nous sommes tous en cheminement, en chemin d'une intériorité qui ne cesse de s'approfondir si nous nous laissons guider par Dieu.
Moi je crois que j'ai découvert plus profondément mon cœur il y a peut-être 2-3 ans en lisant un livre qui s'appelle « Et la lumière fut » de Jacques Ferrand, qui est un livre qui m'a beaucoup impressionnée. C'est l'histoire d'un petit garçon qui devient aveugle accidentellement à 8 ans et qui, du coup, ne voyant plus, fait tout un chemin intérieur et décrit en fait un monde intérieur extraordinaire. Et ça m'a donné envie en fait de découvrir cette vie intérieure en moi. Et alors après, ce livre raconte que ce jeune homme, c'est pendant la guerre de 40, et il conduit un réseau de résistance, et il est déporté. Et il fait une rencontre avec Dieu très très forte, à l'intérieur de lui-même toujours, il est capable, après, il dit que c'est ça qui l'a sauvé. Mais il fait une description, disons, de la vie intérieure, moi, qui m'a ouvert comme des champs entiers, de possibilités, quand on rentre à l'intérieur de soi-même et qu'on découvre ce chemin, eh bien ça, c'est des champs infinis qui s'ouvrent. Et alors, du coup, j'ai continué ma recherche, j'ai eu un grand désir de vivre, en fait, de découvrir, d'aller à l'intérieur de moi-même. Alors, à ce moment-là, j'ai aussi fait la connaissance de Eti Edmisson, c'est comme on prononce. Bon, qui est aussi, je pense que beaucoup de vous la connaissent parce qu'on en parle, il y a des pièces de théâtre sur elle, etc. Qui est aussi, c'est une juive qui, elle, a fait vraiment une forte rencontre avec Dieu et qui vit aussi à l'intérieur d'elle-même. On a vraiment l'impression qu'elle converse avec Dieu et elle a une vie intérieure absolument fabuleuse qui lui a permis de supporter justement tout ce qu'elle a eu à supporter. Et alors j'ai continué à
recherches et tout. Et après, on a parlé d'Elisabeth, de Sainte Elisabeth de la Trinité, qui est une carmélite de Dijon aussi, dont j'ai lu la vie, et qui parle aussi de cette chambre intérieure où elle pouvait se réfugier, mais qu'elle pouvait parler à Dieu. Et en fait, elle raconte aussi, par exemple, au milieu de sa au milieu de toutes ses activités quand elle était jeune fille, elle n'avait pas du tout envie de sortir, par exemple, au bal, et sa mère l'obligeait et tout. Et elle raconte dans ses lettres que même au milieu de toutes ses activités, de toutes ses modalités, disons, elle arrivait à vivre à l'intérieur d'elle-même et à vivre en Dieu. Enfin bref, tout ça, ça m'a aidé. Et vraiment, tout ça, ça m'a vraiment aidé à désirer, en fait, connaître cette vie intérieure et vivre à l'intérieur de moi-même de plus en plus et goûter, en fait, cette vie intérieure. Parce que, véritablement, on peut descendre en soi-même. C'est un véritable lieu caché en nous dans lequel on est paisible, je dirais. Il y a aussi le psaume qui vous a été donné d'ailleurs au début de la session là. Je ne sais pas quel est le numéro. Je tiens mon âme en paix et en silence. Et ce psaume-là, cette phrase-là, m'aide en fait à m'aide. Oui, me soutient vraiment à descendre en moi, à l'intérieur de moi-même, parce que je pense que pour arriver à descendre au fond de son cœur, il est important de faire silence en soi. Et en fait, c'est. Je trouve qu'on est souvent pris par toute notre activité, notre monde. Et il y a vraiment une démarche, comme une démarche intérieure à faire pour replonger à l'intérieur de soi-même.
J'ai en train de penser que c'est quand même étonnant que c'est en descendant en soi-même, dans ce cœur, qu'on rencontre les autres. Et aussi, si on lit les mystiques, tous disent, si tu veux rencontrer Dieu, descends en toi-même. C'est parce qu'il y a de plus intime en nous-mêmes que nous nous ouvrons à l'extérieur, à autre que soi. Et je pense qu'une des grandes souffrances de l'homme moderne, c'est de vivre effectivement une sorte de dispersion dont il souffre, dont il a conscience le plus souvent, de dissipation, qui fait qu'il n'arrive pas à rejoindre ce lieu qui est le vrai lieu de la vraie rencontre. Et donc, évidemment, une grande solitude, en fait, puisqu'on ne parvient pas au cœur à cœur, comme on dit.
C'est vrai que dans notre monde, tout nous pousse à l'extérieur. Et donc, depuis le début du parcours, on réinsiste dans tous les sens sur le cœur profond. Parce que dans le couple, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut vraiment bâtir sur le roc. Et du coup, ça peut paraître pour certains déconnecté des réalités, alors que c'est l'inverse. On est déconnecté quand on passe son temps à l'extérieur. C'est vraiment. Si ça vous paraît au début un petit peu difficile, qu'on reste toujours à essayer de contempler le sommet, mais parce que c'est la clé de tout ce qui va suivre. Donc on insiste et on réinsiste. Parce que, si ça nous paraît un peu difficile, c'est pas grave, parce que c'est difficile à tout le monde, nous aussi, on n'est pas des spécialistes, comme disait Louis. C'est vrai, c'est difficile. Si c'était simple, ça se saurait, puis le monde irait beaucoup mieux. J'ai envie de vous dire, faut pas se décourager, quoi. C'est très important de réfléchir et puis de s'arrêter là-dessus pour que le reste après se mette en place.
Une chose qui me vient à l'esprit beaucoup, c'est que Louis disait tout de suite qu'on est dans un environnement où on est pris par beaucoup de choses, mais aussi on est dans un environnement où on doit gérer. On sait dire qu'on on est dans un contexte permanent où on nous apprend à maîtriser les choses. Et rentrer dans son cœur profond, moi j'ai un peu découvert ça toutes ces dernières années. Moi qui suis formation militaire, où le sens de la mission, c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose où on prend les choses en main, où on a des objectifs, où il faut y aller, il faut être en devant, premier, etc. Et tout notre monde, et on est dans un tabagisme ambiant de « je gère ». Et en fait, je dis ça parce qu'en fait, moi j'ai découvert ces dernières années, pour moi, le chemin que j'ai fait, c'était d'apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire, non pas de plus exercer sa volonté dans la vie courante, etc., c'est pas de ça qu'il s'agit, bien sûr, mais dans la façon d'aborder le Seigneur, dans la façon d'aborder, enfin, pour rentrer dans ce cœur profond, et quelque part, il faut lâcher prise.
Nous allons essayer d'utiliser les images qui sont dans la Bible pour parler du cœur. Mais je voudrais avant préciser une chose, c'est si le cœur est cette capacité, ce lieu où peut se vivre la vraie ouverture, et comme aussi le fait de se tourner vers celui qui parle à notre cœur, on comprend que dans le cœur se vit notre liberté la plus profonde. Père Thomas Philippe, quand il a commencé l'Arche avec Jean Vanier, il pensait que les personnes handicapées, ayant la grâce du baptême, vivaient dans la foi, l'espérance et la charité, mais que, étant donné qu'elles ne pouvaient pas poser des actes vraiment libres, parler d'handicapés graves, il n'y avait pas beaucoup de progression dans la foi, l'espérance et la charité, faute d'un exercice de la liberté. Et il s'est rendu compte qu'en réalité, si elles progressaient, ces personnes, même si elles n'étaient pas capables de poser des actes volontaires, conscients, raisonnés, réfléchis, il s'est aperçu qu'il y avait un cheminement qui se faisait intérieur. Et donc, à ce niveau-là, on est obligé de distinguer deux libertés. Une liberté de faire, d'efficacité, comme disent certains philosophes, et une liberté de consentement. C'est Dieu qui frappe à la porte de mon cœur, je consens ou je ne consens pas. Je dis oui, je dis non. Je m'ouvre, je me ferme. Je me tourne vers, je me détourne. Tout ça se fait sans qu'il y ait nécessairement, vous le comprenez, le besoin de poser un acte conscient. En fait, ce qui se passe dans notre cœur, le plus souvent, on n'en a même pas conscience nous-mêmes. Hein. Il faut descendre dans son cœur pour vérifier les mouvements intérieurs du cœur. Mais on peut très bien vivre sans être averti de ce qui se passe. Et il s'en passe des choses au fond de notre cœur. Le moment où on va se mettre, par exemple, au fond de soi-même, à douter de Dieu, au fond de soi-même, à désespérer, si on n'est pas dans un chemin intérieur, on risque de ne pas s'en rendre compte. Donc, j'insiste sur cette liberté ultime qui fait que tout homme, quel que soit son état psychique, physique, peut avancer vers la vie éternelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que sinon il y aurait une justice qui manquerait. Hein, si des personnes, je pense à l'enfant de Sophie, philippine, si cette personne qui n'a pratiquement pas de cerveau ne pouvait pas suivre un chemin de sainteté, ben, où serait la justice de Dieu? Bien si, elle le peut. Il y a une personne aussi qui est handicapée grave, qui vient régulièrement à l'église, ici à Notre-Dame de Bon Secours. Elle ne parle jamais, si ce n'est pour dire quelquefois « Maman, bonsoir, bonjour ». Mais dès qu'on dit le chapelet, qu'on dit des prières, et même quand je célèbre la messe en face de lui, il connaît toutes les prières de la messe et il les dit avec moi. Il ne parle que pour parler à Dieu. Et j'ai remarqué une chose, c'est Quand je parle avec mon cœur, il y a un gémissement qui jaillit de lui. Quand je parle avec ma tête, il ne réagit pas. Alors, prenons les images qui sont dans la Bible. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Le cœur de l'homme est comme un vase. Je vous cite le Siracide. Le cœur du sourd est comme un vase brisé qui ne retient aucune connaissance. D'une manière générale, l'homme dans la Bible est un vase. C'est-à-dire, il est fait pour recevoir d'abord, pour accueillir. Mais s'il est un vase, c'est parce qu'il a un cœur. Le cœur, c'est le lieu de l'accueil, de la réceptivité. Dans l'image du vase, vous voyez, il y a à la fois l'image de recevoir, en même temps, le vase, il est fait pour être rempli, pour garder. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Le vase, il se laisse remplir et ensuite il déborde. Et dans la Bible, l'action de l'homme est présentée comme un débordement du cœur. En définitive, l'homme tire de son cœur le bon ou le mauvais. L'homme bon tire de son bon fond le bon, l'homme mauvais tire de son mauvais fond le mauvais. Et ça, c'est l'image du vase qui nous aide à le comprendre. C'est un vase qui déborde nécessairement. On peut évidemment soigner les apparences, mais en définitive, ce qui sort de nous, c'est ce qui sort du cœur. Avec l'image du vase aussi, nous avons l'image de quelque chose qui peut être lavé. On purifie un vase pour y mettre, pour qu'il soit apte à accueillir. À accueillir ce que vont, les choses précieuses qu'on veut y mettre. Écoutez à ce sujet-là Benoît XVI qui cite Saint Augustin. Suppose que Dieu veut te remplir de miel, symbole de la tendresse de Dieu et de sa bonté. Si tu es rempli de vinaigre, où mettras-tu ce miel ? Le vase, c'est-à-dire le cœur, doit d'abord être élargi et ensuite nettoyé, libéré du vinaigre et de sa saveur. Ça, ce sont des images qui sont dans l'Écriture. Une autre image qui est présente, c'est l'image de la terre. Nous avons une terre intérieure, et cette terre intérieure, c'est aussi notre cœur. Avec l'image de la terre, c'est l'image de quelque chose qui se laisse pénétrer. La pluie pénètre la terre, la semence pénètre la terre. Le saint, dit Benoît XVI, c'est celui qui se laisse pénétrer totalement. L'homme peut se laisser pénétrer parce qu'il a un cœur. Avec l'image de la terre, nous avons aussi l'image de quelque chose de passif au départ. La terre, elle reçoit. Elle ne peut rien produire par elle-même. Notre cœur, s'il ne se laisse pas toucher, s'il n'accueille pas la semence, qui est en définitive la parole d'amour de Dieu, notre cœur demeure stérile. En dehors de moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. En même temps, avec l'image de la terre, nous avons l'image de quelque chose qui pénètre à l'intérieur de la terre, c'est caché, qui germe et pousse. Donc, d'abord, ça pénètre dans le cœur, ensuite, dans le cœur, il y a un processus qui fait que ce qui est dans le cœur, que ce soit bon ou mauvais, finit par sortir à l'extérieur, comme la semence qui finit par devenir une plante. Ainsi, notre vie, ce que nous produisons à l'extérieur, s'enracine dans quelque chose qui est au fond de notre cœur, mais les choses peuvent pousser avec le temps toujours. Il y a un processus organique qui se rend compte, dont on se rend compte progressivement, qui fait qu'en fait, notre vie vaut ce que vaut notre cœur. Il peut y avoir une bonne semence, il peut y avoir de l'ivraie dans le cœur de l'homme. C'est avec le temps qu'on voit la bonté réelle des actions, qui sont toutes des fruits de ce qui se vit au plus intime de nous-mêmes.
Ce qui est chouette dans ces images, c'est qu'on prend le vase, la terre, on prend des choses, vous voyez, on n'est pas en train de spiritualiser, c'est matériel. Et donc c'est dans le concret de notre vie qu'il va falloir mettre l'esprit. Dieu a uni l'esprit et la matière, et ça va être... Donc ces images, Jésus nous prend tout le temps des choses qui nous ramènent au concret, parce que c'est pas... voilà, on n'est pas en train de vous dire des belles choses qu'on ne va pas pouvoir appliquer. Ça va être dans le quotidien. Moi, je suis très touchée quand Jean-Paul II embrassait la terre en arrivant dans un pays. Embrasser cette terre mère, cette terre qui doit être capacité d'accueil. Lui qui était accueilli quelque part, il venait au nom de Dieu, et il embrassait cette terre qui est chargée de l'accueillir. Et tout ça, c'est pas spiritualisé, c'est dans le concret de notre vie, en permanence, on peut faire de l'opacité du quotidien, des choses qui peuvent nous paraître pas lumineuses au premier abord, faire quelque chose de beau et y mettre l'esprit dedans. Donc, moi, toutes ces images, voilà, ça me parle de cette façon-là.
Moi, l'image de la terre, ça me touche beaucoup parce que j'ai un jardin à la campagne auquel j'essaye d'aller le plus souvent possible. Alors, je jardine et surtout, j'arrache les mauvaises herbes. Et je sais très bien que quand j'arrache les mauvaises herbes, quelquefois, je les trouve vraiment dures et j'en trouve des compliquées avec des grosses racines. Et je me dis, je pense au péché quelquefois. Je me dis, ben dis donc, celui-là, c'est un vrai gros péché qui a vraiment des grosses racines et puis il faut vraiment l'arracher.
Dans la notion d'accueil, je pense que nous, les hommes, on n'est pas très habitués à ça, en fait. On est plutôt dans une notion de donner, de faire, d'agir. Voilà. Et dans la notion d'accueil, c'est l'une des choses que, progressivement, je m'imprègne, je continue à travailler là-dessus, c'est la notion d'accueil. Et de me dire, qu'est-ce que je peux recevoir, en fait. Et je m'aperçois que je suis... Je me tourne vers mon cœur... On va dire, bon, ben, comment est-ce que je peux recevoir quelque chose? Et j'ai énormément de mal à recevoir, en fait. Et j'en suis parfaitement conscient. Et quand je vais au plus profond de mon être, donc de mon cœur, le Seigneur dit, mais laisse faire. Et me demande d'accueillir ce qui m'est donné, en fait. Et c'est vrai, bon, ben, c'est un travail au quotidien. Voilà.
Moi, j'ai souvent une image qui me touche pour le cœur, qui n'est pas une image biblique, parce que je pense souvent à mon cœur comme à une éponge. Et une éponge, quand c'est sec, c'est très serré, c'est dur, c'est pas efficace du tout. Vous voyez, c'est râpeux, c'est désagréable au contact. Parfois, je me sens comme ça, comme une éponge sèche. Et je me dis, par contre, donc il faut plonger son cœur dans le Seigneur. Et là, ben, on peut être utile, on vient de haut, efficace.
Si on était sage, on se laisserait d'abord toujours pénétrer, toucher, aimer par Dieu avant d'agir. Si on était sage. Si on comprenait cette logique du cœur, qui est la logique de la terre qui se laisse d'abord ensemencer. C'est la parabole du semeur, hein, qui nous dit que la fécondité de notre vie va dépendre de cette réceptivité à une parole d'amour, c'est-à-dire à la capacité de nous laisser toucher par l'amour premier de Dieu. La semence germe et pousse, il ne sait comment, le semeur. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Il ne sait comment. Mais ça ne peut que germer et pousser. Avec cette image du vase et de la terre, il y a une dernière image. Mais Hélène l'a dit, c'est l'image de la racine. L'homme qui se confie dans le Seigneur ressemble à un arbre planté au bord des eaux qui tend ses racines vers le courant. Il ne cesse de porter du fruit. L'homme qui se confie dans le Seigneur ressemble à un arbre qui tend ses racines vers le courant. La racine, c'est ce qui permet de capter l'eau, la nourriture dont l'arbre va vivre. C'est par mon cœur que je m'ouvre à la grâce, que je m'ouvre à la lumière, que je m'ouvre à la force de Dieu. L'homme qui se confie, qui met sa foi en Dieu, qui ouvre son cœur, qui le tourne vers Dieu, capte, et à ce moment-là, il n'a pas à craindre la sécheresse, et il ne cesse de porter du fruit parce qu'il a, trouvé comment se brancher à la source. Par contre, dit l'Écriture, celui qui met sa confiance en lui-même, en l'humain, est comme un arbuste desséché dans le désert. L'Écriture aussi ne cesse de nous dire que, comme dit saint Paul, si la racine est sainte, les branches aussi. La bonté de l'arbre dépend de la bonté de la racine. Enfin, je me promenais dans un jardin et j'étais tout étonné de voir, c'était un pêcher et toutes les pêches étaient pourries. Et j'étais avec quelqu'un qui avait un peu l'habitude de la campagne. Je lui dis, mais pourquoi les pêches sont toutes pourries? Il m'a dit, regarde, les racines sont pourries. À vrai dire, depuis j'y pense, je ne comprends pas pourquoi, si la racine est pourrie, le fruit est pourri, mais pourtant c'est bien ce que nous dit la Bible. Par contre, si la racine est bonne, il n'y a rien à craindre. Le fruit sera toujours bon. C'est ça que nous dit cette image de racine. Le catéchisme nous dit que explicitement que le cœur est la racine des actes. Quant au livre des Proverbes, il nous dit que le cœur nous dit « Veille d'abord sur ton cœur, car c'est de là que jaillit la vie. » Au fond, vous voyez, si nous réfléchissons à ce primat du cœur, nous rendons compte que Dieu a voulu que tout dépende du cœur. Dans notre vie réelle, si on regarde la vie en profondeur, pas selon les apparences, la beauté et la bonté de notre vie dépend radicalement du cœur. Et Dieu l'a voulu ainsi pour que tout dépende de notre ouverture à lui. Pour que tout dépende en définitive de notre foi et de notre espérance, par lequel nous nous ouvrons et nous nous tournons vers lui. Y compris notre vie affective, y compris la vie de couple. Ça, il faut peut-être faire un chemin pour l'accepter entièrement, que cette vie affective, qu'on peut avoir l'impression qu'elle dépend d'abord de notre travail humain, enfin d'un travail relationnel, d'un travail psychologique, par exemple, dépend en fait radicalement de ce qui se passe au plus intime de nous-mêmes. Et c'est la raison d'être de ce parcours Nazareth. C'est de remettre, j'ai envie de dire, Dieu au centre, mais de mettre Dieu à la racine aussi. Et d'essayer de voir comment vivre cette réalité si humaine qu'est l'amour entre l'homme et la femme, en l'enracinant en Dieu par le Christ qui est venu nous révéler d'une certaine manière cette réalité du cœur, hein, en même temps que nous apprendre la manière dont nous pouvons vivre les choses avec notre cœur. Avant que j'aille plus loin,
je pense par rapport à ce que tu viens de dire que dans le concret, Donc tout ce que nous avons à vivre, ça va être un aller-retour, à prendre l'habitude de faire un aller-retour entre ce que Dieu nous dit et ce que l'on vit, et de faire sans arrêt. Est-ce que je vis ma sexualité en regardant comment je vis mon union à Dieu et en parlant avec Dieu, en ayant une communication simple avec lui, ou est-ce que c'est déconnecté parce que ça ne me regarde pas, ou alors le travail, enfin tout, de vivre tout ce qu'on a à vivre avec un dialogue permanent avec Dieu. Donc il y a l'apprentissage petit à petit de lui demander son avis sur tout, quoi. Et même si on n'a pas la réponse comme ça, moi, il y a certaines choses où il faut attendre 10 ans ou 15 ans pour avoir la réponse. On en parlait hier soir avec Philippe, au niveau de la sexualité, on a beaucoup demandé à Dieu de comprendre dans tout ce qu'on vivait, de lui dire, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Sur tout, tout, tout. Et progressivement, on trouve dans l'écriture, dans le dialogue, et puis dans les retraites qu'on fait, on trouve des réponses à ces questions qu'on s'est posées pour le concret. Pour tout le concret de notre vie. Et du coup, il y a un enrichissement extraordinaire qui ne se fait pas si on n'unifie pas tout ça.
Je voudrais pointer deux choses. C'est par rapport à ce primat du cœur. Le primat du cœur sur l'intelligence, sur la pensée. Ici, je m'appuie directement sur l'Écriture qui nous dit que le cœur est la racine des pensées, d'une manière un peu étonnante. C'est en Siracide 37:17. Le cœur est la racine des pensées. Nous avons pourtant un intellect qui est capable de fonctionner très bien sans le cœur, enfin très bien. Nous sommes capables de lire, d'assimiler plein de connaissances. En quoi le cœur est-il vraiment la racine des pensées, alors que nous avons plein de pensées qui nous viennent de l'extérieur? Parce que notre intelligence, l'intelligence réelle, profonde, c'est un œil. L'intelligence réelle profonde, c'est un œil qui est fait pour voir. Et en fait, nous pouvons avoir des belles idées dans la tête. En fait, nous avons tous une certaine vision de la vie, par exemple. Nous avons tous une certaine vision de l'autre intérieur. Nous avons tous une certaine vision du mariage, de la famille, même si elle n'est pas conscientisée. C'est-à-dire la manière dont profondément on voit les choses. La manière dont profondément on voit les choses, au-delà de la culture qu'on peut avoir, des connaissances livresques, la manière dont on voit les choses, c'est ça la pensée réelle, qu'elle s'exprime ou pas. En quoi cette pensée réelle dépend du cœur? Parce que si notre cœur ne s'ouvre pas, si notre cœur ne se tourne pas vers celui qui est la lumière, mais en réalité, notre intelligence ne verra jamais les choses en vérité. Saint Thomas d'Aquin dit même qu'il n'y a pas de vérité, l'homme ne peut pas parvenir à la vérité sans l'Esprit Saint. Ce qui semble vraiment étonnant. Quand il dit ça, il ne parle pas d'une vérité au sens d'un savoir. On peut savoir des choses vraies, mais ça ne veut pas dire qu'on les voit. Il y a des gens qui savent beaucoup de choses, mais qui ne voient rien. Et donc le cœur est la pensée et la racine des pensées réelles, celles qui naissent d'une perception. Celui qui reste dans les ténèbres a des pensées ténébreuses. Celui qui s'ouvre à la lumière a des pensées lumineuses. Et donc notre esprit, en réalité, il dépend radicalement du cœur. Si vous voulez faire un dessin, vous faites un dessin, mais je ne sais pas si vous allez vous en sortir. Si Si vous voulez, par rapport au cœur, l'intelligence, ce serait comme une antenne. Et la volonté. L'intelligence se situe à une profondeur plus grande que ces deux facultés spirituelles qui sont l'intelligence et la volonté. Donc, je dis que dans un monde, dans un monde de, dans lequel on est bombardé de connaissances, il y a toute une éducation à faire pour arriver à penser avec le cœur. La dernière fois, nous avions parlé du fait de voir l'autre dans la lumière de Dieu, mais c'est tout simplement de voir l'autre avec un cœur ouvert. De le regarder avec un cœur ouvert. Autrement dit, de le regarder avec les yeux du cœur. Une autre chose que l'on peut souligner, c'est le primat du cœur par rapport à la volonté. Il y a ce que l'on veut vouloir, si je puis dire, les bonnes intentions, et il y a l'intention du cœur. Par exemple, je peux vouloir être agréable vis-à-vis d'une personne, mais si au fond de mon cœur je garde, même inconsciemment, du ressentiment, bien, ma volonté me permettra de poser certains actes extérieurs, mais en réalité, on le comprend bien, c'est le cœur qui l'emporte. Et si même on fait appel à l'expérience, on s'aperçoit que ce qu'il y a dans le cœur finit toujours par transparaître d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce qu'au niveau du visage, de certains mouvements du corps, le cœur prime sur la volonté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mobiliser aussi la volonté, mais être conscient que, de toute façon, la racine de l'acte se passe à un niveau plus profond que la volonté. Et donc, par-dessus tout, veille sur ton cœur, car c'est de là que jaillit la vie. C'est une sagesse à laquelle il nous faudrait en réalité être toujours attentif pour ne pas, poser des actes de volonté sans avenir, sans efficacité réelle. Parce que si on n'a pas conscience de cette dépendance de notre volonté par rapport au cœur, eh bien on tombe dans le volontarisme. Et le volontarisme, c'est fatigant. Tu veux témoigner, Philippe ?
Non, mais d'une certaine façon, ça peut être satisfaisant. Parce qu'on fait des choses qu'on s'est décidé à faire et bon, on peut quand même atteindre le même des objectifs. Donc, quelque part, c'est quelque chose derrière lequel on peut se réfugier et qui peut cacher. Par rapport à, justement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le lâcher prise. Quelque part, on peut s'illusionner, quoi.
Mais c'est en même temps, le Seigneur utilise ça, parce que on peut avoir été, enfin, on a nécessairement, moi c'est toujours une question que je me pose quand on éduque des enfants. Il faut bien les éduquer à la volonté, parce que s'ils ne se lèvent pas le matin, ils vont avoir un chamallow à la place de la colonne vertébrale. Et donc il va falloir les éduquer à la volonté. Et puis simultanément, sur le plan de la relation à Dieu, il faut leur faire comprendre presque l'inverse, se laisser faire. Donc cet aller-retour permanent est... il faut y être attentif. Moi, j'ai plutôt été élevée dans une éducation hyper volontariste, donc fallait faire. Et du coup, je me dis, mais le Seigneur l'utilise quand même, c'est pas complètement négatif. Je dis tout le temps, j'aurais jamais eu tous mes enfants si j'avais pas été. Et maintenant, je remercie bien le ciel. Je me dis, heureusement que cette volonté qui était peut-être pas très bien située m'a permis de faire pas mal de choses, mais il arrive un moment où quand le Seigneur montre, il va qu'il va falloir irriguer les choses différemment. Ça peut être douloureux, mais en même temps, vous voyez, comme il faut cet aller-retour entre l'éducation à la volonté et le laisser-faire, c'est subtil, quoi. Si c'était simple, ça se saurait, hein, on ne serait pas là.
Oui, tout à fait. Il y a un bon usage de la volonté, évidemment, dont on aura l'occasion de parler pour montrer la manière dont on peut avancer dans le chemin de la conversion du cœur, qui suppose de poser des actes volontaires, même avec un cœur encore sec. Donc je ne nie pas la chose, mais vous voyez, au niveau de l'amour, un des grands pièges dans lequel on tombe souvent, c'est de confondre l'amour et le vouloir aimer. C'est pas parce que je veux aimer que j'aime. Avec mon vouloir aimer, je peux poser certains actes, mais dans l'attente de ce que mon cœur soit réellement rempli d'amour. Et avoir conscience que je peux vouloir aimer sans pour autant vivre vraiment l'amour, nous maintient dans une attitude d'humilité qui fait qu'on ne prend pas nos désirs pour la réalité et qu'on peut cheminer dans le sens d'une vraie conversion. Sinon, on s'illusionne soi-même en prenant, encore une fois, son vouloir pour ce que l'on est réellement. Et je vous rappelle aussi ce que je vous avais cité lors de la première rencontre, c'est-à-dire saint Augustin cité par Benoît XVI, « L'homme se meut spontanément et non sous la contrainte, quand il se trouve en relation avec ce qui l'attire et ce qui suscite en lui du désir. » Alors, vous voyez, ça pourrait être lu au niveau des passions psychiques, c'est-à-dire des personnes qui sont, par exemple, si on se laisse mener simplement par le sentiment amoureux, on va agir spontanément et non sous la contrainte, c'est vrai, parce qu'on est en relation avec une réalité qui nous attire et qui suscite en nous du désir. Mais voyez, cette parole de saint Augustin, elle peut être comprise au niveau du cœur. À ce moment-là, si c'est mon cœur qui est attiré, et que si c'est un désir du cœur, c'est là qu'est la vraie liberté. Je vis selon mon cœur. Je fais les choses en écoutant mon cœur. L'homme libre, c'est celui qui vit vraiment ce qu'il vit en restant, fidèle à son cœur, en exprimant donc ce qu'il y a en lui de plus personnel, en étant vraiment lui-même. Est-ce que l'on peut, à partir de là, essayer de préciser la communion spirituelle dont nous avions parlé la dernière fois? Si mon cœur se laisse toucher par celui qui, d'une certaine manière, peut seul vraiment parler à mon cœur, c'est-à-dire Dieu, puisque notre cœur est fait pour lui, si donc j'entre dans un mouvement de foi et d'espérance dans lequel je m'ouvre et je me tourne réellement vers mon Créateur et Sauveur qui m'attire à lui, à ce moment-là, je commence à sortir vraiment de moi-même en même temps que je rentre en moi-même. Que je découvre mon cœur, que je rentre dans l'intime de moi-même en même temps, donc je sors de moi. Je m'ouvre vraiment à un autre que moi. Je voudrais ici déjà vous faire saisir qu'il n'y a que la relation à Dieu qui nous décentre vraiment de nous-mêmes. Parce qu'il n'y a que Dieu qu'on puisse aimer plus que soi. Et donc, à ce moment-là, je suis dans cet état d'ouverture profonde de mon cœur profond. Et qu'est-ce que ça change dans la relation à l'autre ? Mais mon cœur est un vase propre dans lequel je peux accueillir l'autre. quand on dit « je te porte dans mon cœur »,
peut être vécu à différents niveaux. Ça peut rester à un niveau affectif. En fait, c'est le cœur affectif.
Mais si je te porte dans mon cœur, dans un cœur ouvert, dans lequel qui est le fruit d'un chemin d'intériorité, à ce moment-là, réellement, je porte l'autre avec une profondeur qui fait que je peux le connaître de manière beaucoup plus intime. Je commence à pouvoir ressentir ce qu'il ressent intérieurement, même ce dont il n'a pas conscience lui-même. Je le devine. Je le comprends avec le cœur. Je deviens sensible à ses combats intérieurs, à ses souffrances cachées. Je vais même pouvoir l'aider à exprimer des choses qu'il n'arrive pas à dire lui-même. C'est ce qu'on appelle en réalité la compassion. Pâtir avec, sentir avec. Et une compassion qui n'est pas de l'ordre de la pitié humaine, mais qui est de l'ordre simplement d'une sensibilité nouvelle à l'autre. Qui fait que je vais, par cette sensibilité du cœur, être capable de ne pas m'arrêter à la personnalité psychologique de l'autre, parce que je vois ce qu'il y a derrière les mouvements psychiques. Je peux commencer à apercevoir un peu la racine du comportement de l'autre et à ne pas le juger donc sur ce comportement. Ah, c'est évidemment, si on avait cette qualité de relation au quotidien, on éviterait tellement de souffrances inutiles faites par ces continuels malentendus et incompréhensions qui ne cessent de paver nos relations quotidiennes. Ici, évidemment, je décris un peu un idéal, mais vous comprenez la logique des choses. Qui dit éveil du cœur dit éveil d'une intelligence et d'une sensibilité nouvelle qui permet de capter l'invisible. Qui permet une nouvelle écoute.
Ça rejaillit très concrètement sur notre vie. Je pensais à l'exemple d'un enfant qui fait une colère. Alors, il y a des colères qui sont des caprices, et puis il y a des colères qui sont en fait l'expression d'une souffrance. Il y a un gamin qui peut, bon voilà, qui se met dans une colère, mais derrière vous apercevez qu'il y a quelque chose. Pourquoi il est mangé à l'école? Il peut y avoir 36 000 trucs. Et si on le prend, au premier degré, et qu'on n'est pas dans cette sensibilité du cœur, on va faire monter les enchères quelque part, parce que si on est sur le mode d'une certaine rétorsion, et donc en fait, on s'aperçoit que non seulement on va être dans une montée aux enchères, où le cœur ne va pas pouvoir s'ouvrir, mais en plus on va aggraver les choses, puisqu'il y aura. Et ça, je prends cet exemple-là qui est tout bête, tout simple, mais pour dire qu'en même temps, c'est complètement la même chose dans le couple, quoi. Donc voilà.
On a une de nos filles qui était une petite fille très, très coléreuse et qui trouvait toujours le moment opportun pour perturber au maximum la vie familiale. C'est la voiture avec tous les gamins et à ce moment-là, elle fait une colère sur le trottoir, impossible de la faire grimper dans la voiture, donc toute la famille va être en retard. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'elle fait la colère. Et si on dit « Ah, c'est pas possible, tu vois bien, tu vas nous mettre en retard, etc. Ben » alors là, l'engrenage monte, et puis finalement, c'est vraiment on va être en retard. Et en fait, il nous a fallu du temps, on n'était pas très futé avec Philippe, mais il nous a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, crier le fait qu'elle voulait qu'on l'aime, après sa naissance, nous avons eu 3 enfants dans la même année, puisqu'on a eu des jumeaux, et elle, pour elle, elle s'est sentie complètement abandonnée, quoi. Et du coup, elle criait comme ça, j'existe et j'ai besoin d'amour. Et pour nous, c'était insupportable dès qu'on restait au niveau psychologique, parce qu'elle mettait toute la famille en... perturbait tout le monde. Et donc il fallait vraiment descendre dans notre cœur pour dire elle est en souffrance et je l'accueille, je la console. Et c'était le seul moyen de calmer le jeu. Mais on a mis du temps à comprendre.
Oui, évidemment, la qualité de la relation d'aide, comme on dit maintenant, va dépendre de cette capacité à écouter l'autre au-delà de ce qui, au-delà des apparences, pour parler comme le livre de Samuel, où il est dit que Dieu ne juge pas selon les apparences, mais selon le cœur. Et je pensais aussi que dans cette ouverture de cœur qui fait que je porte l'autre, et que je ressens les mouvements intérieurs de son cœur, il y a la possibilité donc de vivre une communion proprement spirituelle, au sens où si je réussis à capter ce qu'il y a de plus profond en lui, et qu'il est lui-même, donc au plus profond de lui-même, quelqu'un qui aime Dieu, qui croit et qui espère, je vais pouvoir donc m'unir à lui dans ce plus profond. On rejoint là le fond commun. Et le fait de toucher ce fond commun qui fait qu'on peut se sentir uni à cette profondeur-là, dans un cœur à cœur, me permet de dépasser beaucoup de choses qui ne sont pas communes. La difficulté de la différence, des caractères, des sensibilités. Et donc d'arriver à se rejoindre quand on le veut, enfin, quand on veut, quand on prend le temps de se retrouver dans cette commune ouverture de cœur, en se plaçant devant Dieu. C'est très différent, vous voyez, d'une complicité affective, dans laquelle on ressent psychiquement ce que l'autre vit psychiquement, et on éprouve une certaine joie à sentir les mêmes choses, mais ça reste à un niveau qui est celui du psychisme. Et ce niveau du psychisme, malheureusement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très stable. Et donc, si on bâtit une vie de couple sur une complicité affective, sur une complicité psychique, ça risque de branler assez vite, parce que le psychisme, il évolue. De toute façon, on n'échappe pas aux âges de la vie. Et donc, si on veut bâtir sa maison sur le roc, c'est évident qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait les grandes tempêtes, des grandes crises psychologiques, pour savoir qu'on peut se retrouver l'un et l'autre à une profondeur qui est celle du cœur. Confirmer les anciens.
Les vieux.
Les vieux.
Les vieux confirment. Mais en fait, c'est vrai que par rapport à ce que le dessin que vous faisiez, Géraud, on peut être attiré par le corps de l'autre, on peut, alors là on est au niveau des sens extérieurs, on peut être attiré au niveau du psychisme, on peut sentir une certaine sympathie, on ne sait pas pourquoi. Il y en a certains, il y a une sympathie qui se crée très facilement. Et voilà, et là on reste au niveau du psychisme, ou alors on peut descendre et construire dans la rencontre avec l'autre, construire au niveau de l'amitié. Alors là ça va beaucoup plus profond et on n'est plus au niveau de la sympathie, on va être au niveau de la compassion, parce qu'on va rentrer. Et donc c'est vraiment, c'est un piège de rester aux deux niveaux, il faut vraiment construire sur les profondeurs du roc, quoi.
C'est pas anodin qu'on ait des ronds qui sont empruntillés, parce que justement tout transpire vers le cœur, et quand on a une communication avec son conjoint, et si on voit que regard, c'est l'offre, et à côté, on fait un dessin équivalent avec un prince. À quel niveau se situe notre communication? Et donc, c'est là où, si on a notre cœur à cœur, et au plus profond de notre être, à ce moment-là, on est bâti sur le roc. Mais si on a une communication à des niveaux différents, c'est sûr que.
Bien, on va peut-être s'arrêter là si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions qui vous restent sur le cœur ou on fait la pause maintenant? Oui.
Vous parlez du cœur, mais on pourrait parler de l'âme. C'est la même chose.
Mais juste, on essaye de montrer que non, en fait. C'est-à-dire, l'homme est l'unité de l'âme et du corps. Disons que l'homme est un esprit incarné. Donc l'âme, c'est l'esprit en tant qu'il anime le corps. L'esprit a deux facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté. Il est fait pour voir Dieu. Et cet esprit incarné qu'est l'homme possède une intériorité. Il a un fond. Le cœur, c'est pas l'être, c'est le fond de l'être. Donc, distinguer l'intériorité de l'âme elle-même, c'est important. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, les deux sont bien distingués dans l'Écriture. Et donc, il faut accepter qu'il y ait un autre terme que le catéchisme définit comme un lieu. On ne dirait jamais que l'âme est un lieu. L'âme, elle est notre essence, enfin, avec le corps. On ne peut pas non plus te dire qu'il faut, je dirais que je devrais descendre, je descends où? Je ne descends pas dans mon âme, je descends dans mon cœur. Avec l'image du lieu, cette image de quelque chose que je dois découvrir, dans lequel je peux m'installer en vivant dans la profondeur de mon être. Je crois que la distinction entre l'âme et le cœur, c'est ce qui nous a manqué à nous les occidentaux, que les orientaux le distinguent très bien. Quand je dis les orientaux, c'est aussi nos frères orthodoxes, mais d'une manière générale, dans le monde oriental, on a plus le sens de cette intériorité, alors que nous, on a réduit les choses simplement au terme âme-corps. Et beaucoup, même certains théologiens, considèrent que le cœur, c'est simplement une manière poétique de parler de l'âme. Or non. Si on regarde bien l'Écriture, ce n'est pas une manière poétique de parler de l'âme. Ça désigne quelque chose de plus mystérieux, de plus insaisissable que ne l'est l'âme. J'ai regardé en hébreu, le fond de l'être, c'est une citation de Jérémie, mais en fait, en hébreu, littéralement, c'est le sein de l'être, S-E-I-N, le sein. Donc, ce qui rejoint l'image d'une chambre intérieure. Chambre intérieure où Dieu demeure. Peut-être la demeure de Dieu. Dans lequel je dois descendre. Prie, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Et là, dans le secret, prie ton Père qui est là et qui te voit. Je dirais, non, parce que dans la tradition orientale, cette réalité du cœur, elle fait partie du langage culturel. Mais ce qui est vrai, c'est que la philosophie qui a marqué la théologie, c'était la philosophie d'Aristote, notamment avec saint Thomas d'Aquin, Aristote ne connaît pas le cœur. Ça ne fait pas partie de son langage. Et donc, ça a beaucoup marqué l'expression théologique. Et donc, des théologiens marqués par la théologie thomiste ont voulu réduire soit le cœur à la volonté, soit le cœur à l'affectivité. Ouais, on ne peut rien comprendre au langage de l'Évangile si on vit cette réduction-là, qui est une réduction, j'ai envie de dire, rationaliste, au sens où le cœur est précisément, comme dit le catéchisme, insaisissable par la raison. Il faut accepter qu'il y a un insaisissable par la raison.
et que vous ayez besoin de temps pour assimiler ce que nous essayons de vous dire là. Et je termine simplement que l'idée chère au père Thomas Philippe, donc était un grand théologien thomiste qui s'est mis à l'écoute du cœur en devenant aumônier d'handicapés mentaux, alors qu'il était un des plus grands brillants théologiens au milieu du XXe siècle. Lui qui s'est mis à l'école des petits et qui s'est enfoncé dans le cœur, disait que ce cœur, c'est Jésus qui le révèle en plénitude. Évidemment, parce qu'il est le lieu de l'ouverture à Dieu, et plus le royaume de Dieu avance dans le monde, et plus en même temps se révèle ce lieu qui est le lieu du royaume.